en Kabylie, cet été de 1914 a des saveurs particulières. Ici, aussi, beaucoup d'hommes sont partis qui n'ont toujours pas compris ce qu'on leur demandait. La mère patrie, était-ce un nouveau dieu ajouté à celui dont on avait l'habitude ? Ici aussi, les hommes manquent aux tâches habituelles. L'Algérie est colonie française depuis 1830. L'État français et ses colons ont peu à peu imposé de nouveaux types de cultures et de nouvelles méthodes de production, correspondant plus aux besoins de la métropole qu'à la consommation locale. Les céréales et le vin, principalement. Alors que les autres pays du Maghreb gèrent leur défense et leur propre armée, l'Algérie est dépendante de la France et à l'approche de la guerre, la conscription est lancée. Elle est plus ou moins déguisée sous forme de volontariat. Mais quand la guerre éclate, 170 000 hommes sont enrôlés. Les unités de spahis et de zouaves sont les plus connues. Par ailleurs, l'industrie métropolitaine réclame des bras. Et nombre de jeunes Algériens franchiront la Méditerranée pour contribuer à l'effort de guerre. L'Algérie fournira céréales, vin et autres produits de subsistance à des conditions très avantageuses pour soulager l'économie métropolitaine lourdement affectée. Elle paiera un lourd tribut pour tous ses efforts et l'après-guerre connaîtra des famines meurtrières. En France, qui avait laissé entendre en contrepartie un assouplissement des règles coloniales, une fois la victoire acquise, aura un fâcheux trou de mémoire et le prix du sang ne connaîtra qu'un règlement fort réduit. Les répercussions se retrouveront après la Seconde Guerre mondiale, qui connaîtra la même amnésie et auront une lourde part dans la vie des personnages de ce récit. Pour l'heure, la famille Zécri est affairée sur sa plantation d'olives. Deux fils ont été enrôlés et sont sur le front de la Marne. Aujourd'hui, leur absence se fait lourdement sentir. Chacun met la main à la pâte, mais les journées sont longues. Les femmes ont pris en charge des cultures vivrières qui permettent à la famille de survivre en ces temps difficiles. Les enfants aident comme ils le peuvent, notamment en s'occupant de leur jeune frère Mohamed, âgé de 6 mois. La bonne entente qui règne entre tous, oncles, tantes et cousins compris, permet d'alléger leur fardeau. Ils sont gens de la terre. Elle les nourrit, elle les rassure. Au cœur des problèmes et des drames, elle leur indique le chemin. Tous n'auront pas cette chance. Mais Abdeltif Zécri, qui a reçu une blessure au bras, a été soigné à l'arrière. La convalescence a été assez longue et a permis au médecin-major qui dirigeait l'hôpital de constater que ce soldat était un excellent jardinier. Il ne cultivait pas les mêmes plantes chez lui, mais très vite, il a assimilé les pratiques françaises. Il a la main verte. Le major souhaite que son hôpital ait un cadre agréable. Il pense que cela est un des critères de la guérison pour ses patients. Malgré les horreurs qu'il voit défiler, il estime qu'il faut consacrer du temps au cadre et au bien-être. Il décide donc de charger un peu le dossier de son convalescent et demande son affectation au service d'entretien d'établissement. Il a assez d'influence et sa demande est acceptée. C'est ainsi que le papa de Mohamed sera à l'abri des combats jusqu'à la fin de la guerre et qu'il pourra le retrouver en décembre 1918 en pleine forme et tout imprégné de pratiques différentes pour l'agriculture. Auguste Camus, mobilisé de deuxième classe dans le 1er régiment de Zouaves, est atteint la tête par un éclat d'obus qui l'a rendu aveugle. Il est évacué sur l'école du Sacré-Cœur de Saint-Brieuc, transformé en hôpital auxiliaire, et il meurt moins d'une semaine après, le 11 octobre 1914. Il vivait à Mondevis, redevenu Dréhen aujourd'hui, près de Annaba, Beaune, en Algérie. Il a peut-être croisé un jour un membre de la famille Zécri. Quelques dizaines de kilomètres séparaient leur village. Ses deux fils n'auront pas la chance de Mohamed, qui retrouvera son papa. Mais peut-être se rencontreront-ils ?